À l'émission Sous l'Olivier, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « L'aventure spirituelle », animée par le regretté Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.
C'est une aventure passionnante que d'explorer ces terres inconnues, ce monde inconnu qu'on appelle la vie spirituelle. En mettant des mots sur notre vécu, notre vie devient expérience. C'est probablement la définition la plus simple de ce que c'est que l'expérience. L'expérience, c'est du vécu conscientisé. Et nommé. Un vécu qui n'est pas conscientisé et se perd tout simplement dans le passé. S'il est nommé, le vécu, il devient de l'expérience, c'est-à-dire qu'il peut servir pour la croissance. Non seulement servir pour la croissance, mais aussi servir pour le partage avec d'autres. Je peux avoir un gros vécu. Si je ne l'ai pas nommé, je ne peux pas le partager aux autres. J'ai pas le véhicule du langage pour le faire. Je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé dans mon vécu. Je n'ai pas réfléchi à ce vécu. Alors, en revenant sur la vie spirituelle, ce que nous voulons faire ensemble, moi dans le studio, puis vous dans votre chambre, dans votre salon, dans votre voiture, c'est de nommer des choses de notre vie et de notre vie spirituelle pour que ça devienne de l'expérience. Notre vie spirituelle, c'est un aspect de notre vie tout court. C'est un aspect qui se vit à travers tous les autres aspects de notre vie. Je vis ma vie spirituelle dans ma vie relationnelle avec les autres, quand je mange, quand je dors, quand je travaille. Vous n'avez jamais vu une vie spirituelle toute nue se promener sur la rue, ça n'existe pas. C'est une personne qui exerce ce qu'on appelle une vie spirituelle. Au point de départ, on peut s'entendre sur ce qu'est une vie spirituelle. Remarquez que c'est très mêlé dans le langage. Si j'avais un couteau assez mince pour vous ouvrir le crâne puis regarder dans votre tête qu'est-ce qui vient quand je prononce le mot « vie » ou « spirituel », je serais pas surpris de trouver autant de réponses qu'il y a de personnes à écouter. Et c'est pas péjoratif, là. C'est que la vie spirituelle, c'est une réalité qui est très riche. Et c'est pour ça qu'on peut avoir beaucoup d'approches de la vie spirituelle. Quand même, c'est intéressant de s'arrêter puis de faire un peu de ménage dans notre vocabulaire. C'est ce que fait Louis Bouillet, qui a écrit une introduction à la vie spirituelle. Au début de son livre, il essaie de dégager un peu là, la signification de la vie spirituelle, parce qu'il y a plusieurs mots qui peuvent être utilisés comme des synonymes, comme disant la même chose. Je pense à la vie intérieure. Bon. Quand on sait ce qu'on veut dire, il n'y a pas de problème avec les mots. Mais le problème, c'est quand on se fie aux mots pour savoir ce qu'on veut dire. Là, ça peut créer des difficultés. Strictement, la vie intérieure désigne la conscience qu'on a de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça n'est pas la même chose que la vie spirituelle, même si souvent, dans les livres de spiritualité, on parlera de la vie intérieure pour parler de la vie spirituelle. Un athée peut avoir sûrement une vie intérieure. Il est conscient qu'il se passe des choses en dedans de lui-même. Hein? C'est une prise de conscience psychologique, si on peut dire, la vie intérieure, l'intériorité. La vie spirituelle, c'est autre chose. La même chose, on va parler de la vie religieuse. Là aussi, s'il y a deux mots, il y a deux réalités. La vie religieuse, parle du rapport à Dieu comme tel. C'est Evdokimov, un écrivain, un penseur français orthodoxe, qui fait la distinction entre la vie religieuse et la vie spirituelle. Et il dit que la vie spirituelle, c'est ce qui fait la liaison entre la vie intérieure puis la vie religieuse, entre l'intériorité et le rapport à une réalité extérieure, qu'on appelle Dieu. Ma vie spirituelle, pour ainsi dire, réunit ces deux aspects. L'aspect subjectif, je suis présent dans le fond de moi-même, et dans le fond de moi-même, je découvre la réalité de Dieu, qui est autre chose que la pure conscience que j'ai de moi-même. Bon, on pourra chicaner avec les mots. Par exemple, la vie chrétienne, si vous identifiez la vie chrétienne au fait d'aller à la messe le dimanche, pratiquer sa religion, comme on dit, ben vous pouvez avoir une vie chrétienne sans avoir de vie intérieure, à la limite, ou sans avoir de vie spirituelle non plus. Si vous voulez, pour s'entendre, pour que nous puissions nous entendre et poursuivre notre exploration, je vous propose une description de ce que c'est que la vie spirituelle à partir de la tradition chrétienne. Une belle description. Le mot spirituel le dit, hein, ça, le spiritus, c'est le souffle, hein, à l'origine du mot spiritus. La vie spirituelle, nous dit saint Paul dans Galates 5, 25, il dit ceci, « Étant donné que l'Esprit, le souffle de Dieu, habite en vous, l'Esprit Saint, fonctionnez, agissez selon l'Esprit. » Vous avez là résumé dans quelques mots ce que peut être la vie spirituelle en régime chrétien. C'est la vie dans l'Esprit. La vie d'une personne animée par le souffle de l'Esprit. Guy Pément, qui a souvent des formules très bien tournées, lui parlait de la vie spirituelle comme de l'art d'avoir du souffle. La vie spirituelle, c'est l'art d'avoir du souffle. C'est une très belle façon de dire la même chose que saint Paul, de telle sorte que l'inverse de la vie spirituelle, ce serait la vie dépressive. Hein? La dépression, c'est de manquer de souffle. J'oublierai jamais ce qu'une ménagère de curé m'a confié en venant me parler de sa déprime, de sa dépression. Elle a eu une façon de me dire ça que je n'oublierai jamais. Elle disait « J'étais tellement basse que je ne faisais plus d'ombre ». Ça, c'était dégonflé, pas pour rire, comme on dit. La vie spirituelle, c'est la vie dans l'esprit. La vie spirituelle, c'est la vie. Ma vie, dans la mesure où elle est inspirée par l'esprit. C'est l'art d'avoir du souffle. Ceci dit, il serait bon de poursuivre ensemble notre exploration à partir de l'affirmation selon laquelle la vie spirituelle est soumise à un devenir, tout comme notre vie tout court. On croit, hein, on arrive à développer sa vie spirituelle. Et on est appelé à développer sa vie spirituelle. On peut avoir une vie spirituelle d'enfant, même si on est adulte. Ça, c'est terrible. Ça veut dire que c'est une petite vie spirituelle qui est pas assez forte pour soutenir nos problèmes d'adulte. Alors, il s'agit de développer sa vie spirituelle. Alors, ici encore, pour comprendre, je vais utiliser des comparaisons. Une comparaison en particulier, la comparaison de la naissance d'un enfant. Un enfant vient de naître, quelqu'un m'a dit, un enfant qui vient de naître, c'est un petit tube digestif avec un haut-parleur au bout. Bon. Mais vous savez qu'un enfant qui vient de naître, il est plein de potentialités, plein de puissance qu'il s'agit de développer. Si vous avez lu les romans de Martin Gray, écrit de très beaux récits, Martin Gray, c'est pas un père de l'Église. Martin Gray, dans un de ses ouvrages, disait En nous sommeillent des énergies plus fortes que mille soleils. On est plein de puissance, de choses en nous, une sorte d'enquistement de la vie, comme on dit. Et cette vie-là, elle est à développer, elle est à devenir au cours des années. La question qui se pose ici, comment amener une vie spirituelle à sa maturité? La réponse, vous la savez facilement. Si vous prenez la comparaison du bébé qui vient de naître, comment amener un bébé qui vient de naître à devenir une grande fille, un grand garçon? La réponse spontanée vient tout de suite. Il s'agit de nourrir cet enfant-là. La réponse est la même pour la vie spirituelle. Vous voulez amener la vie spirituelle à maturité? Il s'agit de nourrir la vie spirituelle. Quand je dis ça, là, ça nous réfère à un principe pédagogique de base. Ça vaut pour tous les domaines de notre vie. Comment amener les choses à maturité? Il faut apporter à chacune des dimensions de notre vie la nourriture suffisante pour la faire croître. Par exemple, physiquement, c'est facile à comprendre. Si je mange pas, je vais mourir. Psychologiquement, c'est la même chose. Si j'entre pas en contact avec la réalité, je vais mourir. Vous savez, vous connaissez les maladies psychologiques, la schizophrénie, l'autisme, des gens qui se coupent de la réalité, ou des gens que la réalité blesse. Les psychologues essaient, ils font leur argent avec ça, essaient de rétablir le lien entre la personne et la réalité pour que la réalité et la personne puissent entrer d'une manière conjugale, si on peut dire, en relation, et que la réalité puisse nourrir la personne. Au niveau de l'intelligence, c'est la même chose. Pourquoi les enfants vont à l'école? C'est pour aller chercher des instruments qui leur permettent d'aller à la chasse à la réalité, pour nourrir leur intelligence, ouvrir leur intelligence, développer ce qu'on appelle le champ mental. C'est extraordinaire, le développement intellectuel par rapport au développement physique. Je peux comprendre le monde à travers l'histoire, à travers la géographie, à travers les idées que je reçois et qui nourrissent mon intelligence. Il en est de même pour la vie spirituelle. Ma vie spirituelle, pour devenir mature, doit recevoir de la nourriture à quelque part. Ces observations m'amènent à expliciter ce rapport entre la nourriture et la vie spirituelle, entre la nourriture et la personne. La nourriture nous renvoie, et c'est facile de le reconnaître dans notre vie, à la digestion. La nourriture, c'est une réalité qui est en dehors de soi. que j'accueille en moi et qui doit, par cet accueil, me transformer d'une certaine façon. Par ailleurs, tout n'est pas nourriture. Par exemple, du point de vue physique, il y a des choses qui me nourrissent pas, que je peux pas assimiler, que je peux pas digérer. Je pense aux minéraux. Je peux pas manger du sable. Je n'ai pas l'estomac fait pour ça. Il y a des personnes, vous le savez, qui ont des allergies ou qui, à cause des difficultés du système digestif, ne peuvent pas manger tel élément. Je pense aux diabétiques qui ne doivent pas manger de sucre parce que le système n'est pas ajusté à cette nourriture-là. Il y a des gens qui sont allergiques aux œufs ou au lait, aux produits laitiers, parce qu'ils manquent d'un certain enzyme pour équilibrer. Ils ne digèrent pas, tout simplement. Il y en a d'autres, c'est les arachides. Les arachides ne sont pas capables, ils font des allergies à ça. Alors, la nourriture est reliée à la digestion. C'est une sorte de couple, ça va ensemble. Vous savez qu'on peut avoir de la bonne nourriture ou de la moins bonne nourriture. Par exemple, nourrir un enfant avec des croustilles puis du Coca-Cola, ça fait pas des enfants forts. Bon, un enfant qui vit au monde, vous lui donnez pas un steak tout de suite, vous lui donnez du lait. Vous trouvez une nourriture ajustée, adaptée à la digestion. C'est très intéressant d'appliquer ça dans la vie spirituelle. La vie spirituelle demande à être nourrie pour croître. Il y a toutes sortes de nourriture dans la vie spirituelle. Il y a des dévotionnettes qui sont pas méchantes comme telles, c'est un peu comme des desserts, si on peut dire. Mais vous vous nourrissez pas de ça. Il faut aller à de la nourriture solide si vous voulez avoir une vie spirituelle équilibrée. Il y a des personnes dans la vie spirituelle qui sont très subjectives. Hein? C'est des gens qui ont une bonne digestion, mais ils se nourrissent pas. Bon, quand j'étais petit, j'avais la chance, le bonheur de demeurer près de chez ma grand-mère. Et vous savez que les enfants vont voir les grand-mères et que les grand-mères gâtent un peu les enfants. Alors, j'allais chez ma grand-mère pour lui demander des biscuits, des choses à manger. Et là, elle me répondait, pour ne pas me donner de nourriture entre les repas, « Mange ta main, garde l'autre pour demain, mange ton pied, garde l'autre pour danser. » Vous avez dû entendre ces termes-là. On peut manger sa main une fois. On peut se nourrir de ses propres graisses. Puis il y a des gens qui le font plus abondamment que d'autres, évidemment. Mais à un moment donné, on n'arrive plus à se nourrir. On n'a plus rien, on va mourir. Il faut aller chercher en dehors de soi notre nourriture. Dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Quelqu'un qui est très introverti, qui est très tourné vers lui-même et qui nourrit pas sa vie spirituelle, il risque de mourir d'inanition, d'avoir de l'anémie, d'être faible, d'avoir une vie spirituelle faible, incapable d'absorber les difficultés puis de faire vivre la joie chrétienne. Et inversement, quelqu'un dans sa vie spirituelle, comme dans sa vie tout court, qui mange trop et qui digère pas, qu'est-ce que ça fait? De deux choses l'une, ou bien on fait des indigestions, ce qui est de santé, hein. L'indigestion, c'est de se débarrasser des choses qu'on peut pas digérer. Ou bien ça fait de l'embonpoint. Ça, on tasse ça sur les hanches et ça force le système. Dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Et ça dépend probablement de tempérament. Des personnes plus extraverties qui suivent toutes les sessions, qui lisent tous les livres. Mais si ça passe pas dans leur vie, je sais pas si vous voyez, ça encombre plus que ça nourrit leur vie spirituelle. Et ça fait de grosses difficultés. De telle sorte que pour que ma vie spirituelle puisse croître sainement, il faut équilibrer la nourriture et la digestion. L'accueil de la réalité qui est là pour me nourrir, et quand on parle de la nourriture dans la vie spirituelle, il s'agit du mystère chrétien, il s'agit de Dieu, il s'agit de Jésus. Et quand on parle de digestion, il s'agit de faire passer ça dans mon vécu, que ça transforme vraiment mon vécu. Ce qu'il s'agit de réaliser, comme dans la vie tout court, c'est une diète équilibrée. C'est un bon régime de vie spirituelle. Il faut donc les deux, et la nourriture et la digestion. Ce qu'il faut noter ici, c'est que c'est la nourriture qui est facteur de croissance. C'est pas la digestion. C'est vraiment l'apport d'une réalité extérieure qui n'est pas moi, et qui, en entrant en moi, en me rejoignant, me transforme d'une façon ou d'une autre. Sous un autre angle, on peut exprimer la même réalité en disant que c'est la vérité qui libère et non pas la sincérité. Je ne sais pas là si ça vous rejoint. C'est pas ce que je pense. C'est ce que j'accueille de l'extérieur et qui me transforme, qui m'amène à penser autre chose ou autrement. C'est ça qui me libère ou qui me fait progresser. Et ce n'est pas la sincérité qui libère, c'est la vérité. C'est la réalité des choses devant lesquelles je me trouve, auxquelles je m'ajuste, que je suis amené à transformer lentement. Ça, la vie est ainsi faite, et la vie spirituelle tout autant. Le père Manaranch écrivait dans un de ses livres en parlant de la sincérité. Le mot « sincérité », ça vient de « sinecera », c'est-à-dire sans cire, sans maquillage, non grimé. Hein. Être sincère, là, c'est pas avoir de façade, si on peut dire. Mais le père Manaranch commente ainsi, mais l'absence de maquillage n'est pas forcément la beauté. Vous pouvez l'imaginer facilement. On peut être sincère et dans l'erreur. On peut être sincère et dans l'erreur. On peut, en retirant tout son phare, n'être qu'un cynique. Quand on réfléchit sur la situation actuelle, on s'aperçoit que beaucoup de personnes parlent de la vie spirituelle uniquement comme de la présence à soi. Ils se refusent d'avoir un correspondant réel, se refuse de tout rapport à un Dieu, à Jésus-Christ, ou à quelque chose d'autre que d'eux-mêmes. Remarquez que c'est déjà beaucoup d'avoir une vie intérieure. Mais c'est important de savoir que c'est la vérité qui libère et non pas la sincérité. Vous êtes sans doute d'accord pour que nous puissions nourrir notre vie spirituelle. La question qui se pose ici encore, mais qu'est-ce que c'est que la nourriture, notre vie spirituelle? Où se trouve cette nourriture? J'aimerais terminer cet échange en vous lisant un très beau texte de Carlo Caretto, qui rejoint un peu ce que disait le père Teilhard de Chardin dans un titre célèbre d'un de ses livres, « Nous vivons dans un milieu divin ». C'est ce milieu divin-là qui est, pour notre vie spirituelle, sa nourriture. Carlo Caretto, et ça revient dans plusieurs de ses livres, écrivait « S'il fallait exprimer en un dessin le thème de la création, s'il fallait dire quelle est la clé du mystère dans lequel nous vivons, de l'obscurité qui nous enveloppe et nous contient, je n'hésiterais pas à dessiner le ventre d'une femme qui porte un enfant en gestation. » C'est cohérent, remarquez, avec l'image du bébé qui est à croître. Carlo Caretto poursuit, « Au centre de l'univers, la douceur d'un sein maternel, la réalité d'une créature qui se fait, le mystère d'une vie fécondée par l'amour, qui reproduit en soi le visage de qui l'a engendré, représente d'une façon extraordinairement authentique ce qui arrive à chacun de nous engendré par Dieu. Tout le cosmos n'est que l'immense milieu divin de notre naissance de fils. Toute l'histoire n'est que la succession d'épisodes qui touchent directement celui qui mûrit, enveloppé dans le temps et l'espace, se dirigeant peu à peu vers la porte de sortie des choses, hors des eaux. Le jour de la naissance de chacun de nous, ce sera le jour où il sortira au-delà des choses dans ce que Jésus a défini comme le royaume. Pour le moment, dans le temps, tout est ventre, tout est gestation, tout est milieu, tout est devenir, tout est provisoire par rapport au royaume qui est déjà en nous, mais pas encore parvenu à son accomplissement. Tout est obscur parce que tout est ventre, tout est souffrance parce que tout est gestation et immaturité. Dieu nous façonne ainsi, avec les choses, avec les événements, avec l'histoire, comme la mère nourrit ses enfants de son lait et le réchauffe de son amour. Ce qui est difficile et long à réaliser, c'est que dans ce processus, il y a deux acteurs et non pas un. De même qu'il y a la mère et l'enfant, il y a Dieu et l'homme.
Vous venez d'entendre « Sous l'Olivier » avec Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.